Hop, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo off, un off à l'ancienne, déjà parce qu'on est dans l'ancien décor, et aussi parce qu'on va parler d'un sujet dans les conditions du direct, comme on le faisait il y a quelques années. Ce sujet, c'est un sujet d'actualité, en l'occurrence un rapport devant aboutir à une proposition de loi et qui a été présenté à la presse il y a quelques jours par leurs auteurs, qui émanent à la fois du Parti Socialiste, des Républicains et de l'Alliance Centriste. On est donc vraiment face à un de ces moments où l'illusion du clivage gauche-droite au sein des partis de gouvernement s'effondre totalement. Et cette proposition de loi est très certainement l'atteinte la plus grave à la fois à la liberté d'expression mais aussi d'information qu'on ait connue depuis l'occupation française.
Je pense que c'est le texte le plus grave et le plus liberticide depuis la dernière guerre mondiale. Jamais il n'y avait eu une attaque qui, à mon avis, est anticonstitutionnelle contre ce que la déclaration de 1789 désigne comme le bien, le droit le plus précieux de l'homme. C'est le droit de l'homme numéro un. Il y a d'ailleurs eu une enquête du Conseil constitutionnel qui place, selon les sondés, la liberté d'expression en tête de toutes les autres libertés. Alors pour moi, peut-être je suis complotiste, mais enfin, j'exerce ici ma liberté d'expression. Je pense que c'est une machine de guerre contre certains résultats qui sont redoutés des élections présidentielles.
Cette proposition de loi a pour but de lutter contre les ingérences intérieures, un nouveau mot qui vient d'apparaître dans le langage macroniste et qui a pour but d'aboutir, eh bien, à une loi qui devra être votée avant les présidentielles 2027. Ce projet de loi a pour but de créer un observatoire de la désinformation en ligne qui aura pour but, eh bien, d'observer l'ensemble des réseaux sociaux et des influenceurs, ainsi que des partis politiques. Elle s'appuiera sur les analyses de groupes réputés indépendants, parmi lesquels on trouve en premier lieu Science Feedback, une organisation dont on reparlera plus tard. Et cette commission, elle aura le pouvoir, en fonction eh bien, de la qualité informationnelle qu'elle va estimer d'un contenu, d'exiger des plateformes, YouTube, Twitter, Instagram, eh bien, de déréférencer, de désalgorithmiser un contenu pour qu'il ne soit plus trouvable, pour qu'il ne soit plus visionnable. C'est en fait un shadowban intégral et total, et je parle bien d'intégral. On peut aller jusqu'au déréférencement total de la plateforme, voire à la suppression pure et simple du contenu, sans que, à aucun moment de la procédure, un juge n'ait été saisi ou même consulté. Et si jamais la plateforme refuse, alors eh bien, cette commission pourra saisir l'ARCOM qui, elle, par le biais d'un juge, imposera à la plateforme la suppression ou la restriction algorithmique du contenu, sous peine d'amende, de sanctions ou d'interdiction d'exercer sur le territoire.
D'un côté, des plateformes qui organisent consciemment ou non la propagation du pire. De l'autre, une régulation qui n'a pas su suivre. C'est de cette combinaison que viennent très concrètement les plus grandes menaces pour notre débat démocratique. Face à ce constat, nous avons voulu construire des réponses solides. Notre première préoccupation, c'est la protection de nos échéances électorales. Et pour cela, nous proposons la création d'un organisme indépendant de l'État, capable d'alerter en temps réel et de déclencher une riposte, évidemment pour les ingérences intérieures, celles que j'ai mentionnées il y a quelques instants. Un observatoire de la désinformation interne qui ferait pour les manipulations venues de l'intérieur ce que Viginum fait déjà pour les ingérences étrangères, mais avec une indépendance évidemment plus forte vis-à-vis du pouvoir exécutif et en s'appuyant sur des organismes de recherche. Il pourrait exiger d'une plateforme qu'elle modifie son algorithme ou qu'elle rende inactif un compte fautif en cas de danger imminent pour la sécurité d'un scrutin. Et si la plateforme refuse d'obtempérer, il pourra saisir l'ARCOM pour qu'elle utilise ses pouvoirs de sanction qui peuvent aller jusqu'à demander au juge judiciaire un blocage pur et simple dans les cas les plus graves.
Alors au départ, j'avais l'intention de faire une longue vidéo pour vous expliquer beaucoup plus en détail quels sont les enjeux de cette loi et ce que contient surtout ce rapport de 56 propositions qui a été présenté. Sauf que, entre-temps, le youtubeur Modin Malin a fait une vidéo extrêmement exhaustive sur la question, donc étant donné que j'ai pas envie de faire de redites, je vais tout simplement vous renvoyer dans un premier temps vers cette vidéo. Vous trouverez en description de la vidéo une analyse, une présentation de ces 56 propositions, de ce rapport, dans les quasi moindres détails. Donc si vous avez envie de faire pause dans cette vidéo pour aller regarder la vidéo de Mandat Malin avant de revenir ici, vous pouvez le faire. Ou alors vous pouvez continuer la vidéo qu'on est en train de faire et après aller voir la vidéo de Mandat Malin. Mais la présentation que je vous ai faite en introduction de cette proposition de loi suffit pour le déroulement argumentatif que je vais essayer d'avoir avec vous maintenant. Il y a un certain nombre de choses que j'avais envie de dire sur cette loi et qui me semblent relativement importantes. Un certain nombre de petites analyses complémentaires à la vidéo de Modin. La première, c'est que déjà j'ai envie de m'arrêter sur le terme d'ingérence intérieure, histoire qu'on soit tous d'accord. Ce terme n'existe pas. C'est purement et simplement la dernière création de la novlangue macroniste. Une ingérence intérieure, par définition, ça n'a absolument aucun sens en sciences politiques. C'est juste un mot pour ne pas oser dire le terme adapté, opposant politique. Et là où c'est assez intéressant, c'est que j'ai envie de me demander comment est-ce que la Macronie va maintenant réussir à justifier que nous sommes en démocratie. Ça fait des années que le narratif macroniste, je l'ai déjà abordé, mais même au-delà de la question du macronisme, ça fait 40 ans qu'on a des élites politiques qui confondent trois notions qui pourtant ne sont pas obligatoirement liées entre elles, c'est-à-dire la notion d'état de droit, la notion de république et la notion de démocratie. Et en règle générale, l'argument de la Macronie face à ceux qui vont douter de la nature profondément démocratique de nos institutions, c'est de dire « mais arrêtez de dire des bêtises, on est en démocratie parce que les gens peuvent s'exprimer ». Ce genre d'argument, par exemple, on peut le retrouver utilisé par des politiciens, mais aussi parfois par des médias, et y compris par des journalistes qui ont pris l'habitude de jouer les opposants au système politico-médiatique alors qu'ils en font totalement partie. Je vous donne un exemple.
Nous ne sommes plus en démocratie, Étienne Chouard. Comment peut-on dire cela aujourd'hui alors que vous-même qui contestez le système, on peut le contester ce système, mais quand on dit on n'est plus en démocratie, effectivement on pense immédiatement au régime totalitaire, autoritaire, l'URSS, Solzhenitsyn, archipel du Goulag, vous dites quelque chose, boum, vous êtes en mine de sel. Bon, c'est pas le cas.
Il y a quand même des degrés entre deux extrêmes. Si vous voulez, pour avoir une conversation sur la démocratie, ça paraît logique de se mettre d'abord d'accord sur le sens des mots. Qu'est-ce que signifie démocratie ? Est-ce que démocratie signifie le droit de parler, ce que les Grecs appelaient l'iségoria, le droit de parole, ou bien est-ce que la démocratie, c'est le droit de décider ? C'est pas du tout pareil. Alors c'est vrai que si la démocratie c'est le droit de parler, et de seulement parler sans rien changer, là, nous sommes en démocratie.
Vous pouvez très bien imaginer une société dans laquelle les gens ont le droit de s'exprimer, mais qui dans son mode d'organisation ne donne pas concrètement le pouvoir de décision au peuple. Comme vous pourriez très bien imaginer un système qui donnerait du pouvoir au peuple, mais ne garantirait pas forcément une liberté d'expression. Et donc du coup, la Macronie va se retrouver in fine emmerdée. Vous avez déformé volontairement la définition de la démocratie en disant qu'il s'agissait de la liberté d'expression et d'information, et maintenant vous revenez sur cette liberté d'expression et d'information. C'est pour ça que je théorise depuis, en tout cas je prophétise, dirons-nous, depuis plusieurs années sur la chaîne, que dans la décennie à venir, nous vivrons l'ère de la post-démocratie justifiée théoriquement. Je suis persuadé que la construction supranationale européenne va un jour nous expliquer sans détournement, sans embâge, que nous devons abandonner la démocratie parce qu'elle nous rend trop vulnérables aux ingérences, aux attaques extérieures. Et c'est pas forcément faux d'ailleurs que la démocratie est un régime par essence extrêmement faible par rapport aux autres formes d'organisation de la société. Sauf que la démocratie, c'est un luxe qu'on peut se permettre si derrière on en a les moyens, si on en a les moyens militaires, si on en a les moyens économiques, si on en a les moyens de la souveraineté. Et étant donné que l'État français a abandonné la souveraineté depuis maintenant des années, étant donné que l'Union européenne elle-même a abandonné la notion de souveraineté, eh bien du coup, la propre faiblesse qu'ils ont organisée servira de justification à l'abandon pur et simple de ce qu'il reste de démocratie dans les institutions européennes. Et donc, par effet de ricochet, dans nos sociétés européennes. C'est-à-dire les pays qui vont composer l'Union. La deuxième chose qu'il faut rappeler, puisqu'on en est à parler de narratif, c'est que ce n'est pas une nouvelle loi. Une fois de plus, il existe actuellement dans l'arsenal juridique français des moyens pour lutter contre ce qu'il maintenant qualifie d'ingérence intérieure, mais qui était qualifié avant de haine, de populisme ou de complotisme. Emmanuel Macron, en 2018, a fait rentrer en vigueur une loi. La loi contre la manipulation en période électorale. Car oui, il faut quand même le rappeler, cette loi a pour vocation à n'être utilisée que en période électorale. Sauf que maintenant, on commence à être habitué à cette technique du pied dans la porte. C'est comme les caméras de surveillance pour les JO ou plein d'autres sujets qu'on a abordés ces 12 dernières années. On commence par quelque chose de temporaire, pour une période précise. Ensuite, bah, c'est plus temporaire, ça devient permanent. Et puis ensuite, c'est plus permanent, c'est obligatoire. Et cette loi de 2018, elle n'a quasiment jamais été utilisée. C'est pour ça que vous en avez probablement pas entendu parler. Elle a été utilisée une fois en 2022. Et si elle n'a jamais été utilisée, c'est pour une raison très simple. C'est parce qu'à l'époque, le Conseil constitutionnel, qui était à peu près encore indépendant, avait autorisé cette loi à une seule condition, c'est qu'il y ait le passage par un juge et une décision de justice préalable à toute censure ou limite de l'exposition publique d'un individu. Et d'ailleurs, ils avaient justifié cette nécessité de passer par un juge par le fait que, selon eux, s'il n'y a pas de juge, c'était pas contraire à la Constitution, c'était purement et simplement contraire aux principes fondamentaux du droit et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et Emmanuel Macron s'est retrouvé relativement emmerdé. On est en période où bah, le downfall commence à arriver, les gilets jaunes, c'est 2018, hein. Il est dans une situation où le fameux état de grâce post-élection se pète la gueule, et est-ce qu'il peut commencer réellement son premier quinquennat avec un conseil constitutionnel qui arrive et qui dit bah, « Désolé, monsieur, vous avez tenté de voter une loi qui revient sur 250 ans d'état de droit. » C'était pas possible, donc du coup il a dit « Ok, très bien, je vous laisse faire », et il l'a purement et simplement jamais utilisé, parce que ce que voulait Emmanuel Macron, c'est bien évidemment qu'il n'y ait pas de passage par un juge. Et c'est pourquoi il y a eu une deuxième tentative, qu'on a tous quasiment oublié, la fameuse loi Avia. La loi Avia qui proposait encore une fois exactement la même chose, mais sans passage par un juge. Et c'est pourquoi elle a été retoquée. Et maintenant, ils reviennent à la charge une troisième fois dans le cadre d'un narratif sociétal qui est celui du DSA. Et c'est pourquoi il faut vraiment comprendre que les arguments donnés par le gouvernement sont des excuses. C'est un projet indépendant de toute réalité sociétale. En 2018, Emmanuel Macron justifiait sa loi par la nécessité de se protéger contre le complotisme et la désinformation. Pendant la loi Avia, on avait exactement le même projet, mais cette fois-ci justifié au nom de la lutte contre le racisme et l'homophobie. Et aujourd'hui, on a exactement le même narratif justifié par la notion d'ingérence. De la même manière que le chat control a été justifié par la lutte contre la pédocriminalité. Ils ont été jusqu'à reprendre des faits absolument horribles et tragiques pour pouvoir dire à ceux qui s'y opposent « Vous ne voulez pas protéger nos enfants ». Mais les mêmes personnes disaient quelques mois avant « Vous ne voulez pas lutter contre la Russie ». Et les mêmes personnes disaient 6 mois avant « Vous ne voulez pas lutter contre les fake news ». C'est toujours la même démarche. Elle est d'ailleurs, on le précisera, d'autant plus déplacée quand c'est justifié par la lutte contre la pédocriminalité, dans un pays où je rappelle que Yael Braun-Pivet a factuellement empêché la tenue d'une commission parlementaire sur les Français impliqués dans l'affaire Epstein. La troisième chose que je voudrais rajouter, c'est un événement dont personne n'a vraiment parlé. Et là, on va parler de Sébastien Lecornu, puisque quelques jours avant cette présentation de proposition de loi, Sébastien Lecornu a lui aussi fait une déclaration que je vous laisse découvrir maintenant.
Le référé qui existe n'existe que pour les présidentielles, législatives et les sénatoriales. Il faut urgemment l'ouvrir à toutes les élections locales, notamment en vue des élections régionales et départementales de 2028, des prochaines élections municipales. On ne peut pas se permettre d'avoir un référé à double vitesse en fonction des élections. Donc ça, évidemment, c'est important. Et enfin, votre question était précise, les peines aujourd'hui ne sont pas suffisamment dissuasives. Donc il faut, et je vous proposerai dans une petite loi là aussi très courte qui va être adoptée au Conseil des ministres en cette fin du mois de juillet, de multiplier par 3 les peines encourues pour celles et ceux qui commettent justement la production de faux contenus d'information en période électorale.
Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qu'il vient de dire ? Je ne parle pas du triplement des peines, hein, je parle du faux contenu d'information. Ces 3 petits mots-là qui sont extrêmement inquiétants. Car là, Sébastien Lecornu ne parle pas de fausses informations. Il parle de faux contenu d'information, et ce n'est pas du tout la même chose. Alors bien sûr, les puristes me diront que dans les faits, la loi actuelle, elle porte sur les fausses informations, certes. Sauf que de 1, cette loi, elle va profondément être modifiée par l'ensemble justement des lois et règlements qui vont apparaître dans les prochains mois, le combo, ou plutôt la triplette DSA, chat control et la loi dont on est en train de parler. Mais aussi parce que quand on connaît un peu la politique, on sait que les changements de lexique et de vocabulaire précèdent toujours les changements de mentalité et donc les changements de loi. Une fausse information, c'est une fausse information. Oui, c'est bateau ce que je dis, mais je vais développer. Ça dure 3 secondes, c'est ce qu'on appelle une fake news. Je dis par exemple quelque chose, cette chose est empiriquement fausse. Il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Alors bien sûr, vous pouvez toujours, si vous êtes une petite pute de réacteur sur YouTube qui coupe les contextes et qui va prendre un tout petit bout de 3 secondes pour le commenter pendant 1h30, vous pouvez être malhonnête. Mais la fausse information en tant que telle, elle reste quand même identifiable. Un faux contenu d'information, c'est pas une information. l'information, c'est l'ensemble de la production. Ça veut dire que le faux contenu, la vidéo dans son intégralité, l'œuvre, comme on pourrait dire, bah, ça regroupe beaucoup plus de choses, un faux contenu d'information, qu'une fausse information. Ça regroupe le commentaire de cette information. Ça regroupe l'analyse de cette information. Ça regroupe l'interprétation dans les deux sens. Comment j'interprète l'information, c'est-à-dire comment je la comprends, et comment j'interprète l'information, comment je la restitue. Par exemple, moi, dans « Je suis pas content », bah, je le restitue avec humour. Je fais un travail d'humoriste. Un travail qui est reconnu d'ailleurs par mon employeur Google, qui me classifie comme tel. Ce qui d'ailleurs me donne certains droits. Par exemple, je suis beaucoup moins soumis que d'autres concernant les langages vulgaires et grossiers. Vous avez vu qu'il y a énormément de vulgarité dans « Je suis pas content ». Et je n'ai jamais eu à biper les mots que j'utilise. Parce que YouTube ne me sanctionne pas vraiment pour ça, parce que je suis en catégorie humour. Ce principe est d'ailleurs sacralisé par la loi française. Quand Nicolas Bedos se fait relaxer par le tribunal pour avoir traité Nadine Morano de grosse pute, bah, les juges se basent sur l'arsenal juridique existant. Une certaine liberté pour les artistes, et particulièrement pour les humoristes, de caricaturer le réel, voire d'être grossier. Tout simplement parce que si vous ne caricaturez pas le réel, il n'y a pas d'humour. L'humour repose précisément sur une distorsion de la réalité qui crée l'effet comique. Tout ça pour dire que ce passage de la notion de fake news à la notion de faux contenu d'information est révélatrice de toute cette mécanique globale d'enchaînement successif de lois liberticides dont on parle maintenant et qu'on est tous en train d'observer. On rappelle quand même qu'en quelques mois se sont enchaînés, un, le chat control 2.0 qui rentre donc en vigueur à partir de la rentrée, c'est-à-dire le scan automatique de tous vos messages privés. Deuxièmement, la proposition de loi de Bruno Retailleau contre le séparatisme qui permet, je le rappelle, de geler sans condamnation pénale et sans procès les fonds de toute personne tenant des propos contribuant à la discrimination, à la haine ou à la violence. Le projet de loi de Laurent Nunez contre l'entrisme qui permettra lui aussi la dissolution ou le gel des avoirs de toute association jugée contraire aux valeurs du vivre ensemble, ainsi que la possibilité pour le ministère de l'Intérieur et de la Culture d'interdire des livres dans un délai express. Le projet du député Renaissance Paul Midi d'encadrement du temps de parole des politiques sur les réseaux sociaux. L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui visiblement, c'est les dernières nouvelles, rentrera en vigueur en procédure accélérée à partir du 1er septembre. Le bouclier européen de la démocratie, qui a injecté des milliards pour subventionner les réseaux de fact-checkers et les ONG visant à promouvoir les valeurs de l'Union européenne. Et bien évidemment, le projet dont on est en train de parler maintenant. La quatrième chose que je voulais dire, c'est que ce rapport contre les ingérences intérieures est lui-même, et c'est dingue, une ingérence intérieure. Parce qu'encore une fois, là, la commission de lutte contre les fake news qu'ils vont créer va se reposer sur des acteurs. Et parmi eux, en premier lieu, Science Feedback. Et le problème, c'est que Science Feedback est elle-même une organisation qui est tout sauf neutre et apolitique. C'est une organisation qui est financée par plusieurs GAFAM, par la Commission européenne en grande partie, ainsi également que par d'autres acteurs privés très engagés politiquement. En clair, les institutions qui réclament davantage de régulation vont s'appuyer sur des rapports produits par des organisations qu'elles financent intégralement. C'est délirant! Et pour vous montrer à quel point on peut douter objectivement de la neutralité d'analyse ou même de la qualité d'analyse de Science Feedback, bah, je vais vous donner quelques exemples d'affirmations qui ont été jugées comme fausses ou complotistes. Je remercie d'ailleurs Amélie Ismaili qui a fait un travail très exhaustif de récapitulation de l'ensemble de ces faits sur Twitter. Première affirmation que je vous livre telle qu'elle est mentionnée, l'usage de trop de médicaments cause à long terme plus de problèmes que de solutions. La surmédication, c'est quelque chose qui est documenté scientifiquement. C'est pas une information factuellement fausse, ça peut être vrai. Deuxième affirmation, la plus rigolarde, le jus de citron a des effets antioxydants. Troisième affirmation, la beaucoup plus inquiétante, l'Occident, l'OTAN et l'UE organisent ou provoquent des guerres par proxy. Ça veut dire... C'est ce que c'est qu'une guerre par proxy. Vous voulez faire la guerre avec quelqu'un d'autre, vous n'allez pas directement le faire sur vos territoires, vous allez choisir un autre territoire en général de gens qui n'ont rien demandé, et c'est là que vous allez vous foutre sur la gueule. Mais putain, c'est documenté en sciences politiques. Il y a littéralement des masters sur ça, sur la guerre de proxy. C'est enseigné depuis 60 ans. Autre affirmation, les énergies renouvelables ne sont pas vraiment écologiques. Je plaisante pas. Pour Science Feedback, c'est une fausse information. Mais putain, c'est un point de vue qui peut se tenir. De dire que, in fine, si on prend en compte comment sont fabriquées les éoliennes et les dégâts qu'elles peuvent provoquer sur la faune locale, putain, mais c'est documenté, c'est un point de vue, ça peut se défendre quand même. Non, pour Science Feedback, c'est une fake news. Et ce parti pris, on le voit d'ailleurs à un certain moment de la conférence de presse que je vous mets maintenant.
Moi qui m'a quand même, j'allais dire glacé le sang, 15 milliards de vues pour des fake news sur ces 5 dernières années et des tweets complotistes.
Ce chiffre de 15 milliards, c'est un chiffre qui vient de Thomas Huchon, le dernier de la classe des fact-checkers, un type sans aucun diplôme en rapport avec son domaine de compétences et dont les faits d'armes se résument à une poignée de documentaires ayant tous fait moins de 10 000 vues et financés par vos impôts. C'est littéralement tout cet écosystème qui a été choisi comme gendarme, et on sait très bien que cet écosystème est tout sauf objectif. D'ailleurs, Laurent Lafon lui-même, donc le représentant de l'Alliance centriste pour ce projet de loi, en 2022, était lui-même un intervenant de son propre colloque qu'il avait organisé, notamment avec Gérald Bronner, Rudi Reichstadt, l'ARCOM et UE d'Isinfolab. Ces bâtards ont tout préparé en soum-soum depuis des années et vont reprocher aux autres d'être complotistes, c'est-à-dire de dire que des gens préparent des trucs en soum-soum depuis des années. Cinquièmement, et ça on va faire très rapidement dessus, enfin il faut quand même rappeler l'ironie de la situation, comment l'hôpital se fout de la charité.
Que se passerait-il en effet si une personnalité, un courant de pensée, un parti politique disposant de moyens financiers conséquents décidait de le mettre au service d'un projet politique en utilisant les réseaux sociaux?
C'est littéralement la démocratie. Que des citoyens et des organisations politiques utilisent l'ensemble des outils mis à leur disposition, en l'occurrence les médias, qu'ils soient sur Internet ou pas sur Internet, dans le but d'essayer de convaincre des gens. Ils sont en train de dire qu'est-ce qui se passerait? Ben, vous voulez que je vous dise ce qui se passerait? Macron président. Non mais parce que ça, par exemple, c'est pas une utilisation des médias pour devenir président, ça. Vous vous foutez de la gueule du monde. Sixième point, ces gens n'ont pas de couilles. Ou en tout cas, l'une de ces personnes n'a pas de couilles. Et c'est plutôt biologiquement normal, puisqu'on parle ici d'Agnès Evran, donc c'est celle qui, parmi les LR, a proposé ce projet-là, qui nous dit aujourd'hui qu'elle se désolidarise de son projet, sans appeler d'ailleurs à ce qu'il soit oublié ou modifié, hein, en nous disant « il y a des fake news, c'est faux, on n'a absolument jamais parlé d'ingérence intérieure, il n'est pas utiliser ce terme dans le rapport. » Alors, on sait très bien que les politiciens sont payés à rien foutre, mais tu nous le confirmes une fois de plus, puisque ce terme est à l'intérieur du rapport, à la page 85. Donc là, encore une fois, mensonge éhonté, technique de plus en plus utilisée, on le voit d'ailleurs en ce moment par Gabriel Attal. Aujourd'hui, les mecs arrivent et ils vous disent « bah non, c'est pas vrai. Tout peut vous prouver en 3 secondes de vérification que c'est vrai, mais pff, ils vont mentir. » Et le mensonge est double, puisqu'elle dit elle-même qu'à aucun moment elle ne souhaite une labellisation des médias. Sauf que quand on étudie les déclarations d'Agnès Evran au Parlement, c'est pas vrai.
Est-ce qu'il y a une quelconque autre manière dont les contenus de journalistes professionnels sont mis en avant sur X? Et est-ce que vous seriez opposé à mettre en place, et ça c'est la question qu'on pose systématiquement, mettre en fait une forme de labellisation pour ces médias? Un label de qualité de l'information?
Non, alors c'est pas aujourd'hui, nous, on n'est pas éditeur, c'est pas nous qui décidons. Il n'y a pas de décision humaine dans le choix de pousser ou non tel type de contenu ou tel type de compte. On a une plateforme qu'on met à disposition de chacun, que ce soit des marques, des médias, des représentants de l'État ou des anonymes qui peuvent venir s'exprimer sur la plateforme. Donc c'est un outil mis à la disposition de chacun et ensuite chacun l'utilise afin de pouvoir converser dans un cadre légal sur la plateforme.
Vous n'avez pas d'autres réponses à apporter? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu court, mais bon.
J'ai pas
sur le label, c'est quand même un sujet essentiel. Mais bon.
Bah, au moment où on se parle, en tout cas, il n'y a pas de labellisation des médias. C'est votre question.
Non, est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée dans l'absolu?
À titre personnel, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet. Mon opinion, je pense, n'a pas beaucoup d'intérêt.
Ça m'aurait intéressé. Mais bon.
Et le dernier point que je voudrais aborder, qui va peut-être probablement mal vieillir, mais au moment où je fais cette vidéo, c'est un constat, c'est un état de fait. Ça fait maintenant 4 jours que cette présentation de proposition de loi a été faite. Et il n'y a eu, à l'heure actuelle, absolument aucune réaction de la France insoumise sur l'ensemble des réseaux ou à la télévision. Ni Manon Aubry, ni Louis Boyard, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Manuel Bompard, ni qui que ce soit de la France insoumise n'a émis la moindre critique, la moindre indignation ou même n'a simplement partagé cette information. Et bien évidemment, je vais le rappeler pour le fond du bus qui ne suivrait pas forcément les vidéos que je fais sur ma chaîne, ça fait juste 3 épisodes que je tape sur le RN, et à sens unique d'ailleurs. Donc c'est pas ici quelque chose de dénonciation à sens unique, non, ça fait 12 ans. 12 ans que j'explique qu'il n'y a plus rien à sauver en matière de lutte contre la supranationalité de la part du Rassemblement National. Ils ont tout voté. Ils ont voté le SREN, ils ont voté la loi de surveillance algorithmique par caméra de surveillance, ils ont voté sa propre prolongation, ils ont voté la loi JO 2024, ils ont voté la loi narcotrafic, qui s'occupe de tout sauf des narcotrafics. Ils sont irrécupérables depuis une décennie. Ça, c'est acté, on le savait déjà. Mais oui, j'avais un peu plus d'espoir envers la France insoumise. Sauf qu'au fur et à mesure des années, on est quand même obligé de constater que la France insoumise sur ce sujet n'est pas différente du Rassemblement National. Ils ont voté pour le DSA, ils ont voté pour l'euro numérique le même jour où ils ont voté contre le chat control. Ça, on y reviendra à la fin. Ils se sont abstenus lors de la motion de censure globale des députés européens contre Ursula von der Leyen, juste avant que Manon Aubry et la France Insoumise nous ressortent la même proposition de motion de censure, mais tout seul, sans personne, simplement pour que le caniche puisse aller sur Instagram hurler que tout le Parlement européen est fasciste et pro-von der Leyen, sauf eux. Et je parlerai même pas de leur gesticulation autour du conflit russo-ukrainien, en fait, parce qu'ils ont beau nous tenir un discours... Alors, en France, on dit pro-russe, parce qu'il y a un niveau de propagande tel que toute position qui n'est pas directement à 100% pro-ukrainienne ou même qui émet des réserves est une position pro-russe médiatiquement. Mais leur position de juste milieu, quand on regarde concrètement le programme de la NUPES aux dernières européennes, c'était littéralement un programme même plus violent que le macronisme. Soutien militaire et financier inconditionnel jusqu'à défaite de la Russie et restitution de tous les territoires annexés depuis 15 ans. Enfin... C'est le seul qui allait encore plus loin que ça, c'est Glucksmann. Parce que lui disait, même sans l'OTAN, on y va, c'est un fou furieux. Et bien évidemment, les images que tout le monde a vues, de Manon Aubry qui prend dans ses bras von der Leyen et qui après est venu lui dire, non, je suis désolé, ça a beau être des adversaires politiques, ils nous font le coup de, du respect républicain, des adversaires... Ok, d'accord, je veux bien. J'admets. Qu'il faut traiter Ursula von der Leyen, donc je le rappelle, une personne qui a le sang... De milliers d'agriculteurs sur les mains qui se sont pendus à la suite des directives qu'elle a passées, notamment Mercosur, etc., que la FI a d'ailleurs condamné. Hein. C'est pas ça le problème. Mais vous estimez qu'une personne comme ça, qui en plus a escroqué des milliards d'euros dans des contrats d'enrichissement personnel avant d'effacer ses propres SMS sur d'autres pandémies, qui a une politique va-t-en-guerre et militariste absolument indécente, vous estimez que cette personne-là mérite le respect républicain? Très bien, j'admets. Mais alors à ce moment-là, on ne se félicite pas de sauter à pieds joints sur la tête d'un gamin de 23 ans. Parce que si le néo-nazisme de Quentin de Ranque est plus grave... que le fascisme de von der Leyen, qui lui a des effets concrets, c'est pas la bagarre là, c'est des milliers de gens qui se pendent et qui meurent. Alors vous avez un sérieux problème, un sérieux problème. Mélenchon qui traite la terre entière de fasciste, mais qui, la même semaine où il traite de fasciste Emmanuel Macron, quand il se retrouve face à lui à Marseille, encore une fois il nous fait le coup de l'opposition cordiale. Vous êtes des faux culs.
Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie, monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble.
Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron.
Non.
Si, vous l'avez dit, vous l'avez dit.
Non, ça m'étonnerait.
Il l'a dit.
Vous pouvez pas le croire.
Non.
Peut-être une légère exagération
marseillaise. Vous voyez pas à quel point tout ça c'est une blague, à quel point ces partis jouent le rôle qu'on leur demande de jouer. C'est comme sur l'Union Européenne, quoi. C'est un Mélenchon qui nous dit « Non, l'UE, c'est pas bien. Et attention, quand on sera au pouvoir, les Allemands, on va gueuler. Hein. » Mais alors, quand Thierry Breton, l'un des architectes de l'austérité et de la censure en France, au nom de l'Union européenne, se fait refuser son visa par les États-Unis, regardez-le courir pour défendre son grand copain de l'oligarchie. Thierry Breton est écarté des USA juste parce qu'il est français et qu'il prétendait résister à sa façon aux GAFAM. À sa façon, ouais, il résiste à sa façon, Thierry Breton. En votant tout, oui, exactement. Mais c'est ma façon de le faire. Et voyez, je vous disais il y a 2 secondes que cette vidéo allait mal vieillir. Ce que vous voyez là, c'est un reshoot. Je suis en train de refaire une prise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mug. Et Effectivement, j'ai parlé un petit peu trop vite. Entre-temps, il commence à y avoir des déclarations de la France insoumise qui commencent à apparaître sur cette loi.
Est-ce qu'il faut compter sur les régulations, par exemple, des GAFAM ? Est-ce qu'il faut compter sur la régulation du réseau X, dont le propriétaire fait en sorte de mettre en place des algorithmes et des modalités de vérification qui lui sont propres, et on sait l'idéologie qu'il porte, cette idéologie d'extrême droite. Il y a des vrais dangers sur les réseaux sociaux, il y a des vrais dangers de manipulation de l'information, d'ailleurs on l'a vu ces dernières semaines, hein. Alors moi j'en vois une, ingérence intérieure, c'est l'ingérence intérieure d'un certain nombre de milliardaires qui financent un certain nombre d'événements, qui s'infiltrent parfois dans l'éducation pour promouvoir leur idéologie. Moi c'est celle-là l'ingérence que je vois.
Oh, quelle surprise! Ils soutiennent la loi la plus liberticide qu'on ait connue depuis le régime de Vichy parce que ça permettrait de lutter contre les fachos. Vous le savez que cette loi ne vous touchera jamais tant que Macron est au pouvoir parce que vous avez une fonction à remplir et que vous avez obtenu des garanties. Tout ça, c'est du spectacle. Que ce soit LR, que ce soit RN, que ce soit PS, que ce soit LFI, tous ces gens-là, à l'échelle supranationale européenne, sont d'accord entre eux. Alors oui, la FI vote contre la surveillance. Et ils font ce que le RN ne fait pas. Ils votent contre les lois de surveillance, comme ils l'ont fait avec Chat Control. Et me dites pas, le RN a voté contre Chat Control, ils ont voté pour toutes les étapes du Chat Control, jusqu'à la dernière, quand leur électorat avait les yeux directement braqués sur eux. Par contre, autant LFI a le courage de voter contre les lois de surveillance, autant ils votent pour toutes les lois de censure. Et la surveillance et la censure, c'est pas la même chose. Et pourquoi ils votent ces lois de censure ? Parce qu'ils pourront les utiliser. Et d'ailleurs, l'appel du pied est gigantesque. Parce que dans ce rapport de 56 propositions, il y a des exemples qui sont donnés de médias à algorithmiquement favoriser au détriment des autres, parce qu'ils auraient une qualité de l'information supérieure aux autres. Et dedans, vous retrouvez Jean Massier, vous retrouvez Hugo Décrypte. Ah bah oui, c'est sûr que si Jean Massier est cité comme source fiable, neutre et objective de l'information, t'as pas vraiment grand-chose à craindre de la loi, donc t'as pas vraiment d'obligation d'être contre. Et cette loi, LFI comme le RN l'utiliseront. Regardez par exemple Manon Aubry, à chaque fois qu'elle est attaquée à tort ou à raison, elle répond par « Vous m'attaquez parce que je suis une femme, c'est du sexisme. » Mathilde Panot fait quasiment toujours la même chose. Regardez Bali Bagayoko. Toutes les fois où il a été attaqué, il a sorti la carte du « Vous dites ça parce que je suis noir. » Alors oui, des fois, c'est vrai. Les gens disent ça parce qu'il est noir. Et ça s'appelle du racisme. Mais ça n'enlève pas la question de fond qu'il esquive systématiquement. Et si vous avez la possibilité de décréter arbitrairement, puisqu'il n'y aura pas de tribunal, que bah, c'est du racisme, c'est du sexisme, ou c'est de la désinformation et de la fake news, carte que vous pourrez ressortir si vous êtes cis blanc hétéro et que du coup vous pouvez jouer aucune des autres cartes, et que bah ça suffit à justifier après la fermeture d'une chaîne, vous êtes gagnant. Et ne croyez pas une seule seconde que le Rassemblement National se priverait de faire la même chose. Et je parlerai pas des militants eux-mêmes. J'ai vu vraiment la moitié des militants insoumis, alors faut être honnête, l'autre moitié le dénonce, ce truc-là. Parce que, bah, voilà, c'est la fameuse loi des reins en politique. Les partis politiques génèrent obligatoirement des élites dirigeantes dont les intérêts et les préoccupations sont opposés à celles de leur base militante. Mais la moitié des insoumis, des comptes du quotidien que j'ai vu parler de ça, se réjouissent de cette loi. Ha ha ha! Regardez, les fachos en panique, on va pouvoir les interdire. C'est les mêmes débiles qui sont allés justifier les extensions de pouvoir de l'ARCOM complètement sidérantes. Il est où là, Ilan Gabay, qui nous casse les couilles à faire 24 posts de 18 pages Word par jour sur les infractions aux droits et aux principes fondamentaux de la République et qui est pas foutu d'en parler? Il n'en parlera pas parce qu'il pense que c'est normal. Parce que ces gens-là pensent que la démocratie c'est fini. Ça ne sert à rien, parce que ça permet pas de lutter contre le fascisme. Oui, l'arsenal de censure de l'Union européenne convient parfaitement aux formations politiques que sont le Rassemblement National et la France Insoumise. Et c'est le moment où la citation de Séguin se justifie parfaitement. La gauche et la droite sont les détaillants du même grossiste. Et ce grossiste, c'est l'Union européenne. Voilà, c'est l'ensemble des petites précisions, des petits ajouts que j'avais envie de faire à la vidéo de Modin Malin. Allez la voir, elle est en description de cette vidéo. Cliquez dessus, allez le voir, lâchez-lui un like et dites-lui que vous venez de ma part, ça lui fera plaisir. Il y aura également 4 autres vidéos cette semaine. Au menu, un épisode de JSPC. J'essaie de trouver la bonne nouvelle du jour. Là, je n'arrive pas à la trouver, donc je pense que ce sera pas très long à faire. Mais bon, voilà, ça va sortir. Faut juste que j'en trouve une. Une interview de Pierre Gentillet qui sortira également cette semaine. un autre off cette fois-ci qui sera la suite de la conférence que j'ai fait sur où en est le souverainisme, une vidéo que j'ai enregistrée chez Omerta, donc je vous ferai une vidéo de renvoi qui vous permettra d'aller voir la vidéo, elle fait plus d'une heure. Et enfin, en cinquième vidéo, merci d'avoir shooté dans le trépied Sissi, tout ça pour te lécher l'anus, un autre off donc je disais qui sera soit un off sur comment Macron a verrouillé les institutions, qui est un off quasiment terminé, soit un autre off beaucoup plus long sur lequel je travaille depuis plus longtemps et j'espère qu'il sera fini cette semaine, sinon il y a l'autre qui est déjà prêt mais j'aurais aimé sortir celui-là avant, voilà, histoire de varier un peu plus les sujets. Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain et gardez la pêche.